À la une de l'actualité, cet incendie en pleine nuit dans la Paillotte le week-end, situé sur la route des Sanguinaires à Ajaccio. Les sapeurs-pompiers, alertés peu avant 4h du matin, sont rapidement intervenus. Il ne reste plus rien de cet établissement emblématique. Une enquête a été ouverte, la piste criminelle est privilégiée. Patrice Roubaud, bonjour.
Bonjour.
Vous vous êtes rendu sur place et vous avez rencontré les gérants Luc et David Delegue. Pour eux, ce matin, ce sont la consternation et l'incompréhension qui dominent.
C'est exact, Roland. La famille Leca parle d'un acte dégueulasse avec un sentiment de dégoût face à la destruction de leur établissement familial. Luc Leca nous a confié son désarroi et son incompréhension. On l'écoute.
Là, je suis pris entre la tristesse et la colère. On est une famille de travailleurs, on est là depuis 76 ans. Alors aujourd'hui, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive. Tristesse, de se dire qu'aujourd'hui, travailler 12, 13, 15, 16 heures par jour, on s'aperçoit que chez nous, c'est mal vu. J'ai plus les mots parce qu'on ne sait plus quoi dire. On est là, on démonte, on monte, on passe des heures et des heures et des heures pour essayer de laisser quelque chose à nos enfants. Et aujourd'hui, on est dans le désarroi et la tristesse totale. C'est l'incompréhension totale, aimée de tout le monde, des jeunes qui n'ont jamais eu d'histoire. On est mal avec personne, je comprends pas. Tous nos clients fidèles de la Paillotte, eh bien on sera là, on sera au restaurant. On n'a malheureusement plus de projection parce qu'on est quand même déjà le 11 août. Là, c'est perdu. Hein. Après, voilà, la police fera ce qu'il faut. Moi, je ne suis pas là aujourd'hui à jouer au justicier. On laissera l'enquête se faire et les choses se faire. Je vais être franc avec vous, on comprend pas. C'est une incompréhension totale. C'est un coup de marteau.
Et après cet incendie qui a ravagé la Paillotte le week-end, le maire d'Ajaccio condamne avec la plus grande fermeté ce qu'il qualifie d'incendie d'origine criminelle et le parquet a donc ouvert une enquête, Patrice.
Vous l'avez dit, Roland, tout d'abord le maire apporte son soutien à Luc et David Leca ainsi qu'à leurs équipes. Rappelons que le week-end est un établissement familial présent depuis plusieurs décennies dans la vie ajaccienne. La piste criminelle est désormais plus que privilégié. La police judiciaire d'Ajaccio est saisie. Une enquête en flagrance a été ouverte pour transport de produits incendiaires en vue de préparer une destruction, ainsi que pour destruction en bande organisée par moyen incendiaire. Les enquêteurs ne partent pas d'une feuille blanche dans cette affaire. Un scooter a été retrouvé à proximité des lieux. Il a été saisi par les enquêteurs. Les policiers exploitent également les images de vidéosurveillance. Et selon nos informations, c'est une patrouille de police qui aurait dérangé deux individus grimés. Ils auraient pris la fuite dans le maquis. Après le départ du feu, Roland.
Patrice Roubaud, merci pour toutes ces précisions. Dans l'actualité également, le dernier bilan du BRGM fait état d'une situation contrastée pour les nappes phréatiques de Corse. Au 1er août, 63% des nappes souterraines en France sont sous les normales contre 54% il y a un mois. Les choses ne s'arrangent donc pas. Dans l'île, il y a des disparités entre la Haute-Corse et la Corse du Sud, mais la situation n'a rien d'exceptionnel pour le moment, selon le Bureau de Recherche Géologique et Minière, précise avec vous, Julia Beaufils.
En Haute-Corse, les nappes entre la plaine orientale et le littoral sont plutôt stables, autour des niveaux moyens pour cette période de l'année. En revanche, pour l'extrême sud de l'île et la façade ouest, les situations sont plus tendues. Selon le BRGM, grâce aux pluies de cet hiver, le bilan n'est pas encore critique, mais dans certains secteurs, la situation reste difficile. Sans pluie, dans les prochaines semaines, les nappes vont continuer de baisser. C'est pourquoi la Haute-Corse a été entièrement placée en alerte sécheresse par la préfecture et certaines zones de Corse du Sud en alerte sécheresse renforcée. Ces arrêtés fixent des restrictions d'usage de l'eau, réduisent les prélèvements et interdisent par exemple l'arrosage la journée.
Et rappelons également que la Corse reste placée en vigilance orange canicule au moins jusqu'à ce soir. Vigilance également face au risque d'incendie. Ce mardi, une grande partie de l'ouest de l'île est toujours classée en orange. Dans ce contexte, 14 patrouilles de l'Office national des forêts sillonnent chaque jour les secteurs les plus sensibles pour surveiller les massifs, contrôler les accès et sensibiliser les promeneurs. Nous y reviendrons plus longuement à la fin de ce journal avec Frédéric Lapine, chef de service à l'ONF, notre invité de la rédaction. Le démarchage téléphonique, sans votre accord, c'est désormais terminé. À partir d'aujourd'hui, les entreprises doivent obtenir votre consentement écrit avant de vous appeler à des fins commerciales. Un accord valable un an maximum. En cas d'infraction, les amendes peuvent atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Des exceptions subsistent, notamment si vous avez déjà signé un contrat avec l'entreprise. En Corse du Sud, le projet du centre de tri de Mezzana ne cesse de faire polémique après l'avis défavorable de l'ARS, l'Agence régionale de santé, en raison du risque de pollution des cours d'eau et de la production agricole. C'est Via Campagnola qui demande au préfet de suspendre le projet. Cette ressource n'appartient ni à une administration ni à une collectivité, précise le syndicat agricole, qui se dit prêt à prendre les mesures nécessaires si l'État persiste dans son choix. Dans ce journal à présent, l'exploit d'un jeune Corse hier au championnat d'Europe de natation. Il va falloir retenir son nom, il s'appelle Sauveur Christophine. Il n'a que 16 ans et est licencié au GFCA Natation. Hier, il s'est d'abord illustré en demi-finale du 4x200 nage libre, signant un incroyable dernier relais, permettant à l'équipe de France de se qualifier pour la finale. En fin de journée, il était donc aligné aux côtés notamment d'un certain Léon Marchand sur la dernière manche, et le relais masculin du 4x200 a réalisé une performance XXL avec une médaille d'argent, une récompense pour un groupe qui a sorti la course parfaite au meilleur des moments. Le reportage de Jérôme Val.
Quand Léon Marchand marche sur l'eau, rien ne peut arriver à cette équipe de France. Surtout quand le quadruple champion olympique sort une course stratosphérique. Premier relayeur, il améliore de près de 3 secondes sa performance sur la distance.
Moi, j'essaie de faire la meilleure course possible. Je fais un super chrono, mais surtout que le relais après derrière, il est monstrueux. On fait une médaille, c'est un relais qu'on a rêvé de faire depuis des années. C'est trop bien.
Porté par le public du CAO, le Toulousain n'a pas déçu pour son entrée en lice.
J'avais un peu de stress quand même. De partir premier, c'est la première fois que je le fais. En plus, je ne savais pas trop où j'en étais en termes de mon état de forme. Là, ça m'a rassuré, mais les heures, les minutes avant la course, ce n'est pas forcément facile.
Et derrière, tout le monde s'est mis au diapason. Les novices, notamment Sauveur Christophini, devient le plus jeune nageur français médaillé.
Ah bah c'est cool, je ne savais pas.
Solide du haut de ses 16 ans.
Bah, en vrai, avec l'ambiance et tout, c'était vraiment un truc de dingue. Enfin, ça nous a énormément tiré. Voilà, j'ai fait ma course, j'ai tout donné.
De quoi peut-être donner des idées pour les JO dans 2 ans, même si le DTN de Nioguin préfère tempérer.
Il reste encore les Américains, les Asiatiques et toute la troupe, mais au-delà de la place, la performance est vraiment intéressante.
Au passage, le record de France a été battu. Il datait de 2012. Les Bleus ont frappé un grand coup.
Et avec cette médaille d'argent, le Corse, vous l'avez entendu, devient le plus jeune médaillé français de l'histoire dans cette discipline.
RCFM, l'invité de la rédaction.
Et l'invité de la rédaction est donc ce mardi Frédéric Lapine, un chef de service à l'ONF de Corse. Elle revient notamment sur la prévention des risques d'incendie de forêt et le suivi des zones touchées. Frédéric Lapine est à votre micro, Patrice Robot.
Frédéric Lapine, merci d'être l'invité de la matinale. Bonjour.
Bonjour.
Les incendies de la Restonica et d'Albertach ont mobilisé d'importants moyens pendant plusieurs jours. Quel a été le rôle de l'ONF sur ces deux feux ?
Le rôle de l'ONF est tout naturel puisque ce sont deux espaces de forêt qui relèvent du régime forestier et donc qui sont gérés par l'ONF. Donc lorsqu'un événement survient dans ce type d'espace, c'est tout naturellement que les techniciens forestiers se mettent à disposition du commandant des opérations de secours pour pouvoir réaliser des missions d'appui opérationnel, notamment guider les moyens terrestres quand on a des renforts en plus qui ne connaissent pas forcément le territoire pour pouvoir les acheminer sur les points qui ont été décidés, aussi leur montrer les points de ravitaillement en eau et éventuellement aussi accompagner les forestiers sapeurs quand on a nécessité d'ouvrir des pistes pour pouvoir faire accéder les engins terrestres.
Les agents de l'ONF ont assuré aussi des missions de surveillance et de patrouille. Ça va continuer, je crois, jusqu'à mi-septembre. En quoi consistent concrètement ces interventions sur le terrain?
Alors d'abord, je voudrais juste rappeler que ces interventions sont définies au sein de ce qu'on appelle l'espace interservice qui regroupe donc bien sûr les techniciens forestiers de l'ONF, mais également et surtout les sapeurs-pompiers par les représentants des deux CIS et également les représentants de l'État. Alors le but, c'est que il faut mailler le territoire pour organiser au mieux la surveillance et la sensibilisation du public. Donc l'ONF réalise sur l'ensemble du territoire 12 circuits de patrouille au sein des massifs forestiers et ça se déroule aux environs du 10 juillet au 10 septembre, là où le pic de fréquentation est le plus important sur l'île.
Comment se déroule d'ailleurs une journée type pour une patrouille de l'ONF en pleine saison estivale?
Alors en pleine saison estivale, le patrouilleur la veille va prendre le niveau de risque. Donc la Corse est maillée en ce qu'on appelle en zone météo. Il y a 5 niveaux de risque, donc on va du vert jusqu'au noir. Prise en compte de ce niveau de risque, le technicien forestier, donc le lendemain, débute sa patrouille à 11h jusqu'à 19h, se signale auprès des services du CODIS et va à la rencontre du public pour pouvoir délivrer les messages de prévention et de sensibilisation face à ce risque.
Une fois le feu fixé, le travail est-il vraiment terminé ou commence-t-il une nouvelle nouvelle phase de surveillance.
On rentre évidemment dans une nouvelle phase pour ce qui concerne nous, les techniciens forestiers. Première étape en termes de sécurité, donc vérifier qu'il n'y aura pas de danger, notamment des risques de chute d'arbres morts ou des risques de glissement de terrain. Donc il y a des experts qui vont venir en appui pour nous aider à établir le niveau de danger. Et la deuxième phase va se jouer à l'automne sur de l'observation en termes de techniques sylvicoles pour voir comment la forêt va se comporter suite à cet événement. Est-ce qu'il va y avoir de la reprise? Est-ce qu'il va y avoir un taux de mortalité assez important? Est-ce que cela va nécessiter des opérations de reboisement? Et une fois ces opérations faites, nous allons mettre en place un programme de travaux de façon à réhabiliter l'espace qui aurait été incendié.
Qu'est-ce que vous évaluez en priorité quand vous arrivez après qu'un incendie soit passé?
Alors la première chose, c'est qu'on va définir ce que l'on appelle le contour du feu. Le contour du feu va nous donner la surface. Ensuite, nous allons effectuer deux nuances, c'est-à-dire la surface parcourue et la surface brûlée. Parce que le passage du feu ne signifie pas forcément végétation complètement morte ou arbre complètement mort.
Ces incendies déclenchés par la foudre rappellent-ils que le changement climatique rend les massifs corses plus vulnérables? Quels enseignements tirez-vous?
Alors, nous allons effectuer des retours d'expérience pour voir quels ont été les impacts, comment le feu a, entre guillemets, dégénéré, comment il s'est propagé, quels ont été les points positifs dans la lutte, quels ont été les points peut-être qui nous ont échappé. Donc, cette réunion-là va avoir lieu rapidement. Et ensuite, devra se traduire par des actions en termes d'aménagement du territoire.
Quand les massifs sont fermés, est-ce que vous avez du mal à faire respecter cet arrêt?
Globalement, ça se passe quand même bien. Je veux dire, on est dans un contexte où aujourd'hui, on ne peut plus ignorer le risque, même si on a toujours affaire à des récalcitrants. Mais grâce à l'appui aussi d'autres services, ça devient assez dissuasif quand on voit un camion de pompiers, quand on voit un technicien de l'ONF. Donc ça devient assez dissuasif et généralement, ça se passe plutôt bien.
Enfin, quel message souhaitez-vous adresser aux randonneurs et au grand public qui souhaitent retrouver ces secteurs dans les prochaines semaines?
Alors, avant tout, d'aller se renseigner. En 2026, on a quand même la chance d'avoir un réseau de communication assez efficace, notamment par le biais des réseaux sociaux, qui sont relayés sur les pages des communes qui ont été touchées, des offices de tourisme, du Parc naturel régional de Corse, de l'ONF, des CIS, et vous-même, hein, d'ailleurs, les médias. Vous trouverez en instantané toutes les informations utiles à bien prendre en compte avant de vous rendre sur ces lieux.
Merci Frédéric Lapine d'avoir été notre invité.
Merci à vous pour l'invitation.
Une interview à retrouver sans plus attendre en intégralité sur l'application ici.